Bon bec. Le podcast dédié à la flûte à bec. Bonjour et bienvenue dans Bon bec. Bon bec, c'est le seul et unique podcast francophone qui vous propose, depuis 2019, d'explorer l'univers de la flûte à bec. Je suis Claire Secordel, je suis flûtiste un peu, flûtophile beaucoup, mais avant tout et passionnément, je suis flûtière. Mon métier consiste à fabriquer pour vous, artisanalement, des flûtes à bec de différentes esthétiques et de différents modèles. Et en plus de ça, je me suis donné une mission à laquelle je tiens tout particulièrement, celle de vous permettre de mieux connaître, de mieux comprendre et de mieux choyer vos flûtes. C'est pour cette raison que j'ai imaginé et créé Bon bec. En solo ou avec mes invités, dans des épisodes basés sur un mot-clé ou au travers de conversations inspirantes, je souhaite que vous puissiez trouver des réponses à toutes les questions que vous vous posez sur la flûte à bec, sur les flûtes à bec, sur le monde de la flûte à bec, et même encore plus loin. Bon bec sort tous les premiers et troisièmes dimanches du mois, et vous pouvez l'écouter sur toutes vos plateformes de podcast, sur le site www.bonbec.fr, ainsi que sur YouTube. Je vous laisse également dans les notes de chaque épisode tous les liens nécessaires pour poursuivre l'exploration et la réflexion. Alors, que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez ? Bienvenue dans ce nouvel épisode Alphabec, consacré, comme son nom l'indique, à l'acoustique, et plus spécifiquement à l'acoustique des flûtes à bec, bien sûr. Alors pour ce sujet qui dépasse largement le champ de mes connaissances et de mes compétences, je me suis dit, quoi de mieux que de s'adresser à un spécialiste de la question ? Et j'ai donc eu le plaisir d'accueillir à mon micro Antonin Dudermel, qui est doctorant, qui prépare une thèse, justement, sur l'acoustique des flûtes à bec. Et plus précisément sur l'influence des paramètres de facture sur les attaques. J'avais bien entendu préparé 1000 questions, même si je lui en ai posé un petit peu moins. Questions parmi lesquelles: qu'est-ce que l'acoustique? Comment une flûte à bec produit-elle du son? Quel est son fonctionnement acoustique? Qu'est-ce qui se passe quand on joue différentes notes et qu'on modifie les doigtés? Est-ce qu'il y a une influence de l'essence de bois sur le timbre des flûtes ? Comment définir avec justesse les termes à employer pour caractériser nos perceptions et nos sensations de jeu ? Ou encore, comment procède-t-on pour mener des recherches sur l'acoustique des flûtes à bec ? Et je peux vous dire qu'avec ces explications, toutes ces notions qui m'avaient toujours semblé absconses me sont apparues tout à fait limpides et je dirais même presque enthousiasmantes. Je me réjouis donc de partager cet entretien avec vous et je vous retrouve pour la conclusion. Très bonne écoute. Alors Antonin, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots s'il te plaît ?
Oui, alors je suis Antonin Dudermel, donc j'ai découvert la flûte à bec en école de musique à 6 ans. Puis ensuite j'ai été en classe musique au conservatoire presque jusqu'à la terminale finalement où j'ai été au conservatoire. Puis après j'ai enchaîné sur des études scientifiques, donc des études scientifiques un peu poussées, qui m'ont amené à l'ENS de Lyon en informatique. Puis en fait, après 4 années post-bac de sciences, je me suis dit « Ah, mais c'est marrant, il y a quelque chose qui me manque. » Et ce quelque chose, c'était la flûte à bec. Et donc, je me suis dit « Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de ménager la chèvre et le chou ?» Et la réponse, ça a été de faire un master à l'IRCAM, qui est un centre de recherche à Paris liant la science et la musique. À la suite de quoi, j'ai rencontré mon encadrant de thèse, qui est un spécialiste de l'acoustique, et notamment de l'acoustique des instruments à vent, dont les flûtes. Et c'est avec lui que, depuis un an, je fais une thèse sur les flûtes à bec.
Et alors justement, est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que c'est que l'acoustique ?
Alors l'acoustique, c'est la science qui étudie le son, mais c'est assez généraliste, dit comme ça, c'est-à-dire que c'est pas que le son qu'on entend, ça peut aussi être ce qu'on appelle les infrasons, donc les sons très graves, les ultrasons, donc via différents domaines, c'est-à-dire que on a l'acoustique, tout ce qui est acoustique industrielle, donc pour par exemple limiter le bruit des autoroutes, des trains, aussi étudier un peu est-ce que finalement en écoutant certains matériaux on peut savoir quelles sont leurs propriétés. Et puis il y a ce qui nous intéresse plus évidemment, donc l'acoustique musicale, dans laquelle on a par exemple l'acoustique des salles, donc savoir comment faire une bonne salle de concert pour que le son soit bien diffusé vers le public. Ou bien, évidemment, l'acoustique des instruments de musique, donc comprendre comment les instruments fonctionnent.
Ok, ok. Alors, tu disais, c'est la science qui étudie le son. Comment on peut définir le son ?
Alors le son, globalement, c'est une déformation dans un milieu. Donc généralement, c'est de l'air, mais on peut aussi entendre du son sous l'eau. Bah, l'exemple, c'est le chant des baleines, par exemple. L'idée, c'est que le son, c'est une vibration qui va se déplacer. Donc finalement, le son ne va pas nous être apporté. C'est de l'air qui va se déplacer très localement et qui va, finalement, sa petite molécule d'air qui va dire à sa voisine, OK, le son était comme ça, qui va dire à sa voisine, etc. Jusqu'à ce qu'il y ait une petite molécule d'air qui obtienne cette information et qui se trouve à côté de notre oreille et qui va secouer notre tympan et dire, bah voilà ce que c'est que le son. Et donc, l'idée, c'est que le son, ça va être ça, ça va être un déplacement dû au fait que l'air soit élastique, en quelque sorte. Et oui, c'est un déplacement donc d'informations de proche en proche, comme ça.
Et donc, c'est très lié à notre perception aussi.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a toute la partie purement mécanique, acoustique, c'est-à-dire des choses qu'on étudie du point de vue de la physique. Donc, que ce soit le fonctionnement de l'oreille, on comprend à peu près comment le son se propage dans l'oreille, à quoi sert à quoi sert le tympan, l'étrier, enfin, tous ces petits muscles, ces petits os, ces choses extrêmement complexes, c'est les plus petits muscles, les plus petits os du corps humain. Mais ça, c'est quelque chose de physique qu'on arrive assez bien à comprendre. Et puis derrière, il y a tout ce qui est la perception. C'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, vu que c'est quelque chose qui se passe dans le cerveau. Et donc, pour l'étudier, on peut faire, par exemple, ce qu'on appelle des IRM. Non, plutôt des électroencéphalogrammes, d'ailleurs, que des IRM, pardon. Oui, on fait des électroencéphalogrammes, donc des manières de voir un peu quelles zones du cerveau sont activées lorsqu'on écoute de la musique. Mais c'est quand même quelque chose de très compliqué. Enfin, un cerveau, c'est 100 milliards de neurones, je crois, quelque chose comme ça, et qui sont en interaction entre eux, donc qui sont branchés les uns aux autres. Il y a aussi la vitesse de propagation de l'information entre les neurones qu'on pense peut-être avoir un rôle dans la perception. Enfin, c'est des choses qui sont excessivement complexes, donc on étudie plus d'un point de vue bout à bout. Donc on fait écouter les choses aux gens, on leur demande ce qu'ils ressentent. Et donc ça demande, là on passe dans le domaine des sciences humaines, ce qui tout aussi passionnant, mais qui a d'autres problématiques que ce qu'on appelle les sciences dures, telles que la physique, la mécanique, l'acoustique.
Donc on est vraiment à la croisée de plusieurs disciplines qui sont complémentaires, qui ont besoin de travailler ensemble.
Ouais, c'est exactement. Ça. Et d'autant plus dans l'acoustique musicale, où là, il y a tout le travail de musicologie qui s'ajoute à ça. Donc d'un point de vue culturel, d'un point de vue historique, notamment quand on parle d'approche historiquement informée, il faut aussi comprendre les instruments dans leur contexte. Donc il y a toutes ces connaissances-là, c'est quelque chose qui est très, très transdisciplinaire. Donc c'est un domaine passionnant.
Oui, j'allais dire, c'est passionnant. Alors si on revient à nos flûtes à bec, comment ça fonctionne acoustiquement une flûte à bec, en fait? Comment une flûte à bec produit un son?
Alors la flûte à bec, ça appartient comme les cordes frottées, comme le violon, comme les instruments à hanches ou les instruments à les cuivres. C'est un instrument qu'on dit auto-oscillant, c'est-à-dire que ça accomplit une espèce de petit miracle, qui est qu'on souffle dedans, donc on amène une énergie qui est, on dit, continue, c'est-à-dire que le souffle, normalement, il oscille pas trop, idéalement.
On vibre pas, en
on
fait.
On vibre pas, ça. C'est
d'accord.
Ça. Mais cette énergie donc continue qui vibre pas, la flûte à bec va réussir à la transformer en énergie vibrante. Et la flûte à bec, c'est une flûte, donc sa particularité, c'est que c'est, contrairement au... par exemple, la clarinette où c'est une hanche de bois qui va vibrer, la flûte à bec, c'est purement fluide, c'est-à-dire que c'est de l'air qui entre en vibration qui va créer le son. Et donc, globalement, c'est le jet d'air en sortie donc ce qu'on appelle le canal, donc ce qui est entre, finalement, la couche d'air entre le biseau et le haut de la tête de l'instrument. En sortie, ce jet d'air, il est très, très instable. On peut penser notamment à la fumée d'une bougie ou d'une cigarette qui va se mettre à osciller quand on souffle dessus, l'air en sortie d'une flûte à bec, c'est pareil, si ce n'est qu'on ne peut pas le voir vu que c'est de l'air. Mais il va se mettre à osciller, en fait, en présence du son qui est déjà dans la flûte, l'air va se mettre à osciller. Et quand il va y avoir une séparation de ce jet d'air au niveau du biseau, cette séparation-là va créer du son. Et ce son va passer dans le corps de l'instrument, revenir au début du jet et va se remettre à faire osciller le jet. Donc c'est une vibration qui est créée... ce qu'on appelle un effet de boucle de rétroaction, puisque c'est du son qui produit du son, qui produit du son, etc.
Et alors, c'est pour cette raison que si on bouge, par exemple, la fenêtre de sa flûte avec la main, on n'a plus de son. On a le bruit qui fait pfff, mais on n'a plus le son.
Exactement. On part dans un domaine qui est la mécanique des fluides. Donc, c'est comment plus la dynamique des fluides, comment des jets d'air, finalement, interagissent entre eux. Et quand on met le doigt, on perturbe le jet d'air suffisamment pour qu'il ne rencontre plus du tout le biseau.
D'accord. Et alors, une fois que l'air est en oscillation et traverse la flûte, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, quand on veut jouer des notes et donc on fait des combinaisons de doigté, bouchant ou en débouchant des trous? Comment ça fonctionne acoustiquement?
Ben en fait, le corps de l'instrument, alors ça, c'est pas vrai que pour les flûtes, c'est vrai pour, je vais pas dire tous les instruments avant, parce qu'il y a toujours des exceptions. Enfin, l'humanité a été suffisamment prolifique en création d'instruments pour qu'il y ait toujours des exceptions, mais globalement, dans la plupart des instruments avant qu'on connaît, l'idée est que le tube est beaucoup plus long que large, donc le son peut se déplacer que sur cet axe. Et en fait, disons, ça va un peu comme quand on bloque les deux extrémités d'une corde, finalement, sur un violon. La distance que doit parcourir le son dans le corps de l'instrument va être fondamentale pour le choix de la note qui va être produite par l'instrument. Et donc, quand on débouche des trous, finalement, on modifie la longueur de ce tuyau. Et donc, le son va avoir plus ou moins de temps pour faire l'aller-retour. Et c'est cette différence de temps qui va créer les différences de hauteur qu'on connaît.
Donc, quand on bouche tous les trous ou qu'on enlève seulement un ou deux doigts en bas de la main droite, on a forcément un son plus grave puisque la distance est plus longue.
C'est ça.
Et alors, comment ça se passe quand on change d'octave?
Alors, quand on change d'octave, c'est en fait ce qu'on appelle la notion de registre. C'est-à-dire que, en fait, le tube... Il a plusieurs, ce qu'on appelle plusieurs modes de résonance. Donc, il y a le premier mode, c'est le moment où l'onde fait un aller-retour pendant une vibration. Mais il y a aussi le deuxième mode où là, c'est pendant deux vibrations que le son fait finalement un aller-retour. Et donc, ce deuxième mode, finalement, c'est ce qui va donner les harmoniques quand on est dans ce qu'on appelle le premier registre. Donc, quand tous ces allers-retours sont possibles. Donc, soit faire un aller-retour pendant une vibration, pendant deux vibrations, pendant trois vibrations, etc. Enfin, on retrouve ce qu'on appelle la série harmonique en mathématiques, mais qui est l'idée du cycle do, do, sol, do, mi, sol, do, etc. Mais ce qui se passe, c'est que ce qu'on appelle ce premier registre, il n'est pas disponible tout le temps. C'est-à-dire, si on souffle trop fort, notamment, le premier registre ne pourra pas se développer. Ou voire pire, dans le cas de la flûte à bec, on fait même une petite fuite au niveau du trou du pouce, qui fait qu'on empêche ce premier registre de se développer. Et donc, l'instrument va quand même vibrer, mais directement sur le deuxième registre. Donc, d'où le fait qu'on fasse une octave quand on débouche le trou du pouce.
D'accord. Oui, donc en ouvrant le trou du pouce, on crée cette condition à faire sonner les registres plus aigus et à empêcher le registre grave.
C'est ça. Enfin, toujours dans une certaine limite. C'est-à-dire, si on souffle très peu fort avec un trou du pouce un peu débouché, on va quand même obtenir le premier registre. Et si on souffle très fort avec tous les trous bouchés, on va quand même obtenir le deuxième registre. Ce n'est que la flûte à bec étant un peu inharmonique, généralement on n'obtient pas des sons qui sont parfaitement justes sur les instruments comme la flûte à bec. Là où des pipeaux qui sont des instruments parfaitement harmoniques avec un corps qui a un cylindre parfait, ou même le galoubet par exemple, le galoubet provençal, qui lui joue énormément là-dessus, ou tout ce qui est flûte harmonique qu'on trouve dans énormément de cultures. Là, c'est volontairement fait pour que l'instrument soit parfaitement harmonique et on a juste besoin de souffler plus fort pour changer de note, enfin de registre.
Ok. Et alors peut-être une dernière question sur le son de la flûte à bec. Comment expliquer que sur une note donnée, je dis par exemple un do sur une flûte alto, si je souffle plus fort, mon do monte, si je ne souffle pas assez fort, mon do est trop bas. Comment on peut relier cette idée de la justesse avec ta discipline?
Alors justement, il y avait en fait, quand je parlais de l'histoire de que le son devait faire un aller-retour complet dans le corps de l'instrument, ce qu'on a oublié, c'est là-dedans, c'est qu'il y a aussi le son va pas se propager que dans le corps de l'instrument, il va aussi se propager le long du jet. Le jet qui part du début du fait qui doit traverser toute la fenêtre. Donc il part du début du canal et il arrive jusqu'au biseau. Donc ça, c'est la longueur de la fenêtre. Et en fait, le son, là, il va pas se propager de manière acoustique. Il va être ce qu'on appelle convecté, c'est-à-dire il va être déplacé le long du jet, un peu finalement comme un surfeur sur une vague. Et donc ça va dépendre globalement de la vitesse de la vague, donc du jet. Et donc plus on souffle fort, plus ce jet va aller vite. Et donc on a cette marge de jeu-là sur la flûte à bec qui est que si on souffle plus fort, le son va monter ou descendre un peu.
Il y a un autre sujet dont je voulais parler avec toi, c'est du choix des termes qu'on utilise quand on veut décrire le son d'une flûte. Alors typiquement, on entend souvent une flûte ouverte ou une flûte plutôt fermée ou un son plutôt fin. Et tout ça revêt des significations et des ressentis différents chez chaque musicien. Donc c'est un petit peu compliqué toujours d'échanger en utilisant les bons termes. Comment est-ce qu'on pourrait trouver les bons termes qui soient à la fois justes scientifiquement et dans le ressenti?
D'une part, peut-être c'est le rôle des scientifiques aussi, c'est un peu de fixer des nomenclatures. Notamment par exemple pour les tuyaux d'orgue, on a énormément de termes qui sont très très précis. Alors le tuyau d'orgue, c'est très très voisin de la flûte à bec, ça fonctionne quasiment pareil, si ce n'est qu'il n'y a pas de trou sur le tuyau, mais... Et oui, donc pour les tuyaux d'orgue, notamment, on a des... Bah, j'ai des copains qui ont fait des thèses là-dessus. Ils m'ont raconté qu'ils ont des gros dictionnaires et c'est en 5 colonnes sur 5 langues qui expliquent les traductions des termes. Donc, pareil, des dictionnaires de traduction finalement. Donc là, il y a eu ce travail de nomenclature qui est... Alors, soit il y a la technique un peu brutale qui est que le scientifique dit, bon, voilà le terme physique, voilà ce qu'il signifie et voilà ce qu'on veut lui faire dire. Donc ça, c'est un peu une approche, la science toute puissante qui n'est pas forcément très, très pertinente. Et il y a l'approche beaucoup plus... finalement beaucoup plus complexe, qui est sociologique finalement, d'aller interviewer les gens et de comprendre un peu qui utilise quel terme, pourquoi, et aussi dans quel contexte. C'est-à-dire il y a des contextes sociaux, par exemple, on sait qu'il y a des écoles de flûte à bec, en France on joue pas de la même manière qu'en Allemagne, et donc du coup, en plus de pas avoir la même langue maternelle, il y a des termes qui vont être différents. Et donc c'est quelque chose de finalement beaucoup plus compliqué que d'imposer un terme à tout le monde, bon, qui est aussi évidemment beaucoup plus intéressant, mais qui est, un défi un peu qui est pris au sérieux par beaucoup de scientifiques qui essaient justement de... Bah là, du coup, encore une fois, c'est l'interaction sciences dures, sciences sociales, un peu relier des paramètres physiques avec du ressenti des musiciens.
Tu sais s'il y a des études en cours ou des travaux en cours sur ce sujet ?
Je sais qu'il y en a une à Marseille, notamment sur... c'était plus sur la voix humaine, mais on essaie aussi généralement de faire des liens entre plusieurs termes musicaux.
Ok. C'était un aparté pour moi. J'ai une autre question qui fait parfois débat entre les musiciens, les facteurs et les scientifiques. C'est quelle est l'influence de l'essence de bois sur la sonorité de la flûte ?
Alors, c'est une très bonne question. Tout ce dont j'ai parlé jusqu'ici, c'était dans le cadre finalement de ce qu'on appelle l'acoustique linéaire, qui est en fait un modèle d'instrument de musique. C'est-à-dire que les scientifiques travaillent assez peu directement sur les instruments en soi, enfin conditions réelles. Généralement, il y a tout un travail de modélisation qui est fait. Et donc, dans ce modèle-là, ce qu'on considère, c'est la géométrie de l'air qui est contenu par l'instrument. Donc la géométrie, c'est finalement ce qu'on appelle la perce, donc la forme du tuyau à l'intérieur de l'instrument, la position des trous. Et donc, dans cette approche purement géométrique, bien qu'une flûte soit en bois, en résine, en cristal, en plastique, il n'y a absolument aucune importance. Et après, il y a plusieurs choses qui peuvent entrer en compte. Déjà, il y a la qualité du travail de l'instrument. Donc, si on me permet un petit aparté, notamment sur les flûtes traversières, il y a la question de l'or et de l'argent qui rentre assez souvent en jeu. On sait par exemple que l'or est un matériau assez mou, assez ductile. Et donc, il y a une certaine aisance du travail. Et pareil, si on revient sur la flûte à bec, la différence entre du bois et de la résine, bon, sauf des résines très spéciales fabriquées par Vincent Bernolin, typiquement, un bois, c'est quand même beaucoup plus simple à travailler qu'une matière plastique, qui est généralement obtenue en plus à partir d'un moulage, donc c'est pas les mêmes contraintes de fabrication, qui font que même si c'est idéalement la même géométrie, il y aura des différences géométriques à la fin quand même dues au process de fabrication. Ensuite, il y a l'aspect psychologique, qui est important déjà du point de vue de l'instrumentiste. Quand on a un bel instrument, on a envie de le jouer, on va le jouer plus. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. C'est-à-dire, avoir un bel instrument, c'est important pour bien jouer de la musique. Enfin, un instrument qu'on aime, en fait. C'est pas... Donc, il y a cet aspect-là. Et du point de vue des fabricants, notamment, on sait que en revenant aux flûtes traversières, on sait que l'or est réputé pour avoir un son un peu chaud, tandis que l'argent a un son un peu plus métallique. Et donc, quand on fabrique une flûte en or, on a l'idée d'une flûte en or pendant qu'on la fabrique. Et vice-versa pour une flûte en argent qui peut expliquer certaines divergences. Donc ça, c'est le côté un peu, finalement, un peu science humaine, un peu science sociale. Je ne suis pas en train de dire que c'est n'importe quoi et qu'il ne faut pas... Mais les aspects psychologiques sont à prendre en compte et c'est important, quand on a une démarche rigoureuse et scientifique, de prendre ces aspects-là en compte. Et ensuite, il y a tout ce que les modèles scientifiques ne sont pas capables d'expliquer. Donc déjà, il y a une étude quand même qui avait été faite par Benoît Fabre et Henri Boutin sur l'importance de l'essence de bois. Qui est, on essaie plusieurs essences et on voit ce qui se passe. Et leur conclusion, ça a été, tant que le bois est bien huilé, c'est pas trop grave. Et je crois que c'est Philippe Bolton qui racontait une expérience où on avait amené en salon une flûte qui était pas très bonne. Puis le lendemain, le flûtiste qui avait la flûte l'a ramenée et elle était vachement bien. Et la différence, c'est qu'il l'avait huilée pendant la nuit. Donc on sait notamment sur des essences qui sont très, très, ce qu'on dit poreuses, c'est-à-dire qu'il va y avoir ce qu'on appelle des micro-fuites, c'est-à-dire que il va y avoir finalement la manière dont le bois a poussé fait qu'il y aura quand même un peu d'air qui va sortir de l'instrument. Pas beaucoup, mais suffisamment pour qu'il y ait une différence dans le son. Et ça, on sait que sur les essences comme l'érable, par exemple, c'est beaucoup plus important que sur des essences comme le buis. C'est pour ça qu'une flûte en érable, normalement, il faut la huiler plus qu'une flûte en buis pour obtenir les mêmes qualités de son.
Donc c'est finalement plutôt l'état de surface et de traitement de la perce qui va influer.
Oui.
C'est-à-dire que si je traite une flûte en érable avec un vernis imperméable, je la transforme en flûte, pas en plastique, mais... Donc c'est ça l'idée.
La conclusion de l'étude, c'est ça.
Oui.
Et après, il y a au-delà tout ce qu'on ne s'est pas encore expliqué. Par exemple, suffit de voir une flûte qu'on a jouée pendant une heure, voire pire, deux heures, trois heures, ce qu'il ne faut évidemment jamais faire.
C'est mal, ne faites jamais ça.
Mais on sort et on voit que le corps de l'instrument, c'est plus le bois, mais c'est du bois plus de l'eau à la surface du bois. Donc là, il y a une hypothèse qu'on n'a pas encore vérifiée. Donc je marche un peu sur des œufs là, mais l'idée est que peut-être la forme des fibres du bois, finalement, vont plus ou moins retenir les gouttelettes d'eau, ce qui va peut-être influencer sur la perce. Mais il y a des tas de choses qu'on ne sait pas encore, puisque le bois étant un matériau vivant, c'est... finalement, étudier des instruments en bois, c'est à peu près, pas aussi dur, mais presque aussi dur que d'étudier des humains, parce que c'est quelque chose qui évolue en permanence. Mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant. Enfin, si c'était facile, on n'étudierait pas ça.
Donc ça laisse la place à la recherche.
Exactement.
Et donc justement, toi, tu es chercheur. Et est-ce que tu veux bien présenter rapidement ton projet de thèse ?
Alors mon projet de thèse, il s'inscrit dans la lignée de finalement le projet de thèse de mon encadrante de thèse et le projet de thèse d'un ancien doctorant de mon maître de thèse actuel. Et qui était que l'une avait étudié justement l'influence de la géométrie sur comment finalement le facteur fabrique des flûtes et comment est-ce qu'il fait finalement le canal, donc tout ce qui est avant le biseau. Pour obtenir du son. Donc elle avait étudié dans ce qu'on appelle un état quasi statique, donc quand le son est déjà présent finalement. Et l'autre, lui, avait justement essayé un peu de qualifier qu'est-ce qui se passait quand on démarrait le son, parce que quand on étudie la flûte à bec, on sait les attaques, c'est quelque chose de très dur à maîtriser, c'est quelque chose de très important. Si on attaque trop, on en parlait, on change de registre en octavie. Si on attaque pas assez, le son sera pas précis. Dans Ganassi, déjà, il y a le fameux teke, puis ensuite le tele qu'on trouve chez Hotteterre, le diddle qu'on trouve chez Quantz. Donc on sait que déjà, dès les premières études, les premiers cours de flûte à bec qu'on a écrits, avaient cette importance-là de l'attaque. D'autant plus important que la flûte à bec, on est un peu limité par le fait qu'on n'a pas cette souplesse de façonnage du son qu'on aurait sur les flûtes traversières, où là, on peut modeler le son en créant le jet. C'est pas nous qui créons le jet sur les flûtes, c'est le fabricant ou la fabricante. Et donc, ces attaques sont très importantes, mais c'est plus dur à étudier que justement le son qui est déjà présent, parce que, disons que le son, quand il est déjà présent, on a des choses qui sont constantes, qu'on peut arriver à estimer, et qu'on a aussi plus de mal à reproduire expérimentalement du son, une attaque qu'un son permanent. C'est-à-dire un son permanent, globalement, vous pouvez juste brancher votre flûte sur un compresseur et régler la sortie du compresseur pour avoir une telle pression en sortie.
Mais le compresseur ne maîtrise pas les attaques et les coups de langue.
Donc, il y avait dans les années 2000, c'était Claire Ségouffin, donc une encore plus ancienne doctorante de mon maître de thèse. Elle faisait ça avec une espèce de ce qu'on appelle une arbalète. Donc, c'est-à-dire que la valve était associée à un ressort de métal très puissant. Donc on soulevait un petit clapet très très vite. Et donc, ça faisait un transitoire d'attaque, une attaque finalement. Qui était bon an, mal an, ressemblait à une attaque de flûtiste à bec. Donc, l'enjeu de ma thèse, c'est un peu comprendre ça, donc faire le lien entre les paramètres géométriques de l'instrument. Donc, comment est-ce que le facteur fait finalement, ou la factrice fait pour avoir de bonnes attaques ? Et c'est encore une fois compliqué, puisque ça demande déjà de savoir ce que cherchent les gens qui fabriquent des flûtes par rapport au son. Ça demande aussi de comprendre ce que font les flûtistes dans leur bouche, notamment au niveau de l'attaque. Donc, on sait que c'est le coup de langue, donc c'est. Un système pareil de clapet, on ouvre quelque chose très vite. Et donc, est-ce qu'on peut expliquer ça juste par, finalement, on mesure la pression, donc la force qu'a l'air à l'intérieur de la bouche. Est-ce que juste une variation très rapide de cette pression suffirait à expliquer l'attaque des flûtes ? C'est un problème ouvert auquel je compte m'attaquer, que j'ai commencé à étudier pendant un an et je compte m'attaquer pendant les deux prochaines années.
Et c'est là que c'est très intéressant pour toi d'être toi-même flûtiste, parce que du coup, tu peux l'expérimenter, tu sais complètement de quoi tu parles.
Alors, c'est très intéressant et ça m'a rendu beaucoup de services. Par exemple, la flûte qu'on utilise, c'est une flûte qui a été développée pendant la thèse de mon encadrante de thèse par Philippe Bolton. Donc, c'est presque une vraie flûte. Et donc, quand je l'ai prise et que j'ai commencé à la jouer, j'ai tout de suite pu dire « Attendez, cette flûte a besoin d'une révision ». Donc, on est retourné chez Philippe qui a gentiment accepté de retravailler cet instrument. Bon, qu'il était très content de revoir parce que ça lui rappelait des bons souvenirs. Mais d'un autre côté, ça peut me pénaliser un peu, puisque l'approche scientifique, normalement, c'est il faut que la personne qui expérimente soit pas partie prenante de l'expérience.
Ah oui, donc tu manques de neutralité.
Voilà, c'est la question de neutralité. Et puis la question de si j'explique un protocole scientifique en disant voilà, j'ai fait ça, 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 ça. Une des choses qu'on aime en science, c'est que je puisse donner à une autre personne qui connaît rien en flûte à bec. Bon, qui a quand même quelques notions d'acoustique, qui sait utiliser des machines. Cette personne soit capable de reproduire exactement cette expérience et d'avoir les mêmes résultats.
Et peut-être pour finir, est-ce que tu pourrais décrire une expérience que tu as mis en place ou que tu prévois de mettre en place pour expérimenter
Alors, une expérience qu'on est en train de mettre en place, ce serait par exemple, justement, on est en train de développer une bouche artificielle. Donc, encore une fois, c'est pas l'idée de remplacer. On a beaucoup, aujourd'hui, on parle beaucoup d'écalement artificiel avec intelligence artificielle, on imagine remplacer l'humain. Bah là, justement, le contraire, c'est de faire un son qui soit le moins musical possible. En sens qu'on veut, encore une fois, là, on parle plus de reproductibilité, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un d'autre qui va reproduire l'expérience, mais c'est nous qui reproduisons la même expérience plusieurs fois. Donc, c'est répétabilité, c'est donc à différencier de reproductibilité, voilà. C'est quand l'expérimentateur arrive à refaire plusieurs fois la même expérience. Et ça, c'est quelque chose qui est finalement pas du tout musical. Puis, je sais plus, je crois que c'est. Généralement, en musique, en tout cas, on nous dit que jouer deux fois de suite la même note exactement pareil, c'est un peu pénible, c'est pas intéressant. Mais pour les scientifiques, en fait, avoir la capacité de faire ça, c'est un peu avoir la garantie que l'expérience va se reproduire. Et dans la méthode scientifique, c'est quelque chose d'important. Donc, on essaie de faire construire un robot qui joue mal de la flûte à bec, finalement. Et ça, c'est assez amusant, puisque quelqu'un l'avait fait il y a presque 250 ans, qui était Vaucanson, qui avait fabriqué 3 automates pour un peu comprendre le fonctionnement des humains. Donc, le premier dont on se souvient, c'est un peu un canard qui était capable de digérer. Mais on avait fait 2 autres. Finalement, un automate, donc c'était pas encore un robot, c'était vraiment une machine mécanique qui savait jouer de la flûte traversière. Et une autre qui savait jouer du galoubet provençal. Et ce qui était amusant, c'est qu'il s'était dit, il avait un peu les mêmes problématiques que nous aujourd'hui. C'est-à-dire, il s'était dit, maintenant que j'ai réussi à faire un robot qui fait de la flûte traversière, donc c'est très compliqué, il faut des lèvres précises qui envoient le jet d'air au bon endroit. Maintenant que j'ai réussi à faire ça, je devrais pas avoir trop de problèmes pour faire un robot qui fait de la flûte à bec. Et là, il s'est rendu compte que, non, parce que sur la flûte à bec, les attaques sont beaucoup plus importantes, sont beaucoup plus... Oui, finalement, comme on n'a pas ces moyens de contrôle très fins du son, on va avoir beaucoup plus de contrôle sur les attaques. Et donc, ça, il s'est rendu compte, c'est écrit dans son... Malheureusement, les machines ont été perdues, mais il a écrit dans un rapport à l'Académie des sciences que finalement, il y avait tel et tel problème sur sa machine et qu'on retrouve très bien aujourd'hui.
Et alors, tous ces travaux qui sont menés, auxquels tu participes, comment ils vont faire avancer les facteurs et les flûtistes? En quoi qu'est-ce qu'ils vont apporter aux facteurs et aux flûtistes?
Alors, la chose un peu déprimante pour nous, pour nous scientifiques, c'est que la flûte, c'est un instrument qui a 40 000 ans au moins. Disons, les flûtes en os, donc on suppose qu'il y avait des flûtes en bois et peut-être même en matériaux naturels qui se sont dégradés dans le temps. Donc, on sait que ça a au moins 40 000 ans, sinon beaucoup plus. La science moderne, en tout cas vraiment, ce qu'on appelle mécanique des milieux continus, science aussi appliquée à la musique, c'est Jean Le Rond d'Alembert, donc c'est deuxième moitié du XVIIIe siècle. Donc on a beaucoup de retard à rattraper. Donc déjà, pour nous, c'est bien si on arrive un peu à comprendre pourquoi. Déjà, ne serait-ce qu'avant d'essayer d'aider les gens, déjà un peu comprendre leurs pratiques. En fait, c'est des mines d'informations, c'est-à-dire... Oui, vraiment, juste quelqu'un qui joue une note. J'ai l'habitude de commencer certaines conférences acoustiques en disant une flûte à bec, c'est une flûte et ça a un bec. Et rien qu'avec ça, on peut dire des tas de choses sur l'instrument qui ne sont pas du tout évidentes au premier abord. Et ouais, donc il y a beaucoup d'évidences qu'on ne comprend pas encore énormément. Donc, ça, c'est la première partie qui est on a beaucoup de retard et on aimerait déjà un peu comprendre. Et la deuxième partie pour aider, c'est vrai que dans tout ce qui est prototypage, notamment, il y a justement la personne dont je parlais qui avait fait une thèse avant, qui est Augustin Ernoux, il est à l'INRIA de Bordeaux, il travaille beaucoup sur la modélisation d'instruments, notamment il a développé un logiciel dans lequel on entre la perce d'un instrument, donc que ce soit globalement une flûte, une trompette, une clarinette, globalement un instrument avant. Et il arrive à peu près à définir, à déterminer par le calcul quelles sont les fréquences de jeu de cet instrument, donc quelles notes vont être jouables, en fonction justement de la position des trous et de la forme de la perce, ou même de choses très, très 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 surprenantes comme la présence de cheminées. Il a inventé une clarinette pentatonique comme ça en collaboration avec Buffet Crampon. Donc il y a aussi pour la musique ancienne, tout ce qui est ouais, flûte à bec, c'est encore énormément un artisanat. C'est aussi ce qui rend le métier passionnant, c'est-à-dire que on est encore très loin de comprendre, enfin de pouvoir produire cet instrument industriellement de bonne qualité. Pour ce qui est de la production, disons, plus industrielle d'instruments, on sait que, bah, notamment par exemple, Yamaha a récemment ouvert une équipe en collaboration avec l'équipe de Marseille, du LMA, donc laboratoire de mécanique et le A, je sais plus, enfin une équipe à Marseille qui travaille énormément sur les instruments de musique. Donc il y a aussi une demande de la part d'industriels de la musique, un peu de comprendre ce qui se passe pour fabriquer des instruments de manière plus efficace.
Donc vers l'innovation aussi, l'optimisation de ce qu'on a déjà et l'innovation vers de nouveaux instruments peut-être aussi.
Oui, c'est aussi dans l'idée de, notamment, ce qu'on appelle instruments augmentés, donc les instruments dans lesquels qu'on va pouvoir contrôler finalement. Donc c'est pas des instruments électriques, dans le sens guitare électrique, violon électrique. C'est des instruments acoustiques sur lesquels on va appliquer un contrôle électrique. Donc typiquement, on va mettre un petit vibreur sur une corde de violon et on va avoir une machine qui va calculer, disons, en fonction de la vibration de la corde du violon, on va essayer de réintroduire d'autres vibrations pour donner des sons un peu intéressants. Mais bon, finalement, est-ce que c'est vraiment important? Déjà, chanter dans une flûte à bec, finalement, on arrive à faire des choses qui sont très, très intéressantes. Et donc, dans l'innovation, il y a aussi, ils sont beaucoup preneurs de recherche à ce niveau-là.
Ok. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter pour terminer?
Parce que, disons que la science, c'est passionnant, la musique, c'est passionnant. Et les deux ensemble, ça donne quelque chose de très, très intéressant. Il ne faut pas voir la science comme quelque chose qui essaie de rationaliser parfaitement la musique. Mais d'un autre côté, il ne faut pas voir la musique comme quelque chose non plus de pur et d'éthéré. Et il faut pas... C'est intéressant de parler avec des gens de tous les domaines. Et c'est peut-être pour ça aussi que je suis très heureux de faire une thèse aussi transdisciplinaire. C'est le fait de pouvoir... discuter avec des facteurs de flûte, discuter avec des scientifiques. Donc oui, je pense que oui, l'acoustique, c'est chouette, mais ça remplacera jamais la musique. Mais la musique informée par l'acoustique, ça peut donner des choses qui sont très rigolotes. Et...
Tout est lié.
Voilà.
Merci. Et voilà pour cet épisode consacré à l'acoustique des flûtes à bec. Alors qu'est-ce qu'on en retient pour synthétiser ? On peut retenir tout d'abord que l'acoustique, c'est l'étude du son dans toutes ses manifestations, et que le son, c'est une sensation auditive qui est engendrée par une vibration de l'air. On peut retenir aussi que la flûte à bec est un instrument dit auto-oscillant, qui parvient à transformer l'énergie continue du souffle en une énergie vibrante. Ce qu'Antonin a lui-même qualifié de petit miracle, j'espère que vous avez noté ça. Voilà donc une caractéristique supplémentaire qu'on pourra ajouter à notre liste des caractéristiques magiques et miraculeuses des flûtes à bec. On peut retenir encore que la fréquence de cette oscillation, et donc la hauteur des notes, est déterminée par la longueur du tube, par la forme de la perce, par le profil de la perce, par la taille et par la position des trous. Et en fonction de la vitesse de l'air qu'on insuffle, on peut choisir la résonance sur laquelle on joue. C'est ce qu'on appelle les registres. On peut retenir encore que les termes, le vocabulaire qu'on emploie pour décrire le son et les perceptions sont parfaitement subjectifs et très compliqués à définir avec précision, encore plus à uniformiser pour cause de langues différentes ou d'écoles de jeu différentes aussi. Enfin, on peut retenir que la méthodologie de recherche en acoustique musicale spécifiquement, et notamment celle qu'utilise Antonin dans son travail, nécessite de s'éloigner le plus possible de toute subjectivité. Ce qui peut être assez difficile à concevoir au premier abord pour les non-initiés, et pour moi la première. Alors pour terminer, encore un grand merci Antonin d'avoir accepté mon invitation et de nous avoir guidés dans cette exploration du versant scientifique de notre instrument. Je vous laisse dans les notes de l'épisode tous les liens nécessaires pour suivre le travail d'Antonin et pour poursuivre la découverte. Et merci à vous, chères auditrices et auditeurs flutophiles, d'être fidèles au rendez-vous de Bon Bec. Si le podcast vous plaît, dites-le moi en laissant une note et ou un commentaire sur votre plateforme de podcast, en vous abonnant à la chaîne YouTube de Bon Bec ou en me faisant un petit coucou en ligne Je vous lis avec plaisir et reconnaissance et je vous réponds partout où c'est possible. Vous pouvez aussi vous abonner au mail de présentation que j'envoie à chaque nouvel épisode ou encore vous inscrire à ma newsletter 3 minutes pour la flûte qui vous donne un jeudi sur deux des infos, des anecdotes et des astuces sur la flûte à bec à lire en 3 minutes top chrono. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Et surtout, vous pouvez parler de bon bec autour de vous et partager vos épisodes préférés. Les bons becs, c'est fait pour ça. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis bon bec et à très vite.